Les voies de service, mercredi 20 juin 2018. Bonjour, mon nom est Isabelle Falardeau et vous écoutez Les Voies de service en ma compagnie Daniel Lachbradet.
Bonjour, bonjour.
Et aujourd'hui, un invité du programme de bénévoles d'AXA, de bénévolat d'AXA, Émeric Herman.
Bonjour.
Bonjour, Émeric. Alors, c'est ça, Émeric va nous lire un article. Ça va faire varier encore plus les sujets aujourd'hui. Moi, je vais vous parler, comme d'habitude, des Autochtones. Alors, je vais vous parler de deux personnes qui font un témoignage commun sur le génocide. Un qui a survécu au camp de concentration de la Deuxième Guerre mondiale et un qui a survécu au pensionnat autochtone. Alors, les réalités peuvent sembler très différentes, mais on va voir qu'il y a des points communs. Et je vais aussi vous parler d'un nouvel institut scientifique pour les chercheurs autochtones, un institut d'études. Enfin, je ne sais pas si ça va seulement être scientifique. Probablement pas. On va parler sûrement d'économie. Mais c'est ça. Donc, un nouvel institut d'études autochtones. Et de votre côté, Daniel?
Eh bien, en deuxième... Je commence par la deuxième.
Ben, écoutez, vous nous gardez le début pour la fin. La fin pour le début.
En deuxième partie, je vais vous parler d'un article qui a été écrit par Kent Nagano. Sur l'élitisme en musique.
Il est aussi auteur, en plus d'être...
À l'occasion, oui.
J'allais dire metteur en scène, mais c'est pas ça.
pas à ce point-là.
Chef d'orchestre.
Et en première partie, je vais vous parler d'une expo sur Kurt Cobain.
Ah! Ouais. Vous nous parlez souvent de Kurt Cobain dernièrement.
Oui,
c'est lui avec la guitare, hein?
Oui, mais là, j'en parlerai pas de celle-là aujourd'hui.
Non, OK, c'est bon. Et Serge, de votre côté?
Et c'est quoi cette semaine?
Ah, mon Dieu Seigneur.
Cette semaine?
La fête des pères en fin de semaine.
C'est l'été.
La fête en fin de semaine prochaine. La fin de semaine.
Mais moi, je travaille la fin de semaine prochaine, alors je suis en déni.
C'est dimanche prochain, ça. C'est le début de la semaine.
Ah, c'est vrai. Mais ça, je vais vous parler de la Saint-Jean-Baptiste, de ses origines.
Très intéressant. Merci beaucoup. Et Émeric?
Et moi, je vais vous parler de scientifiques à la recherche de l'ADN du monstre du Loch Ness.
Ça va vraiment être intéressant.
Quelque chose, ça.
C'est dans le film Jurassic World, ça, ou non?
pas loin.
Et comme j'ai un sujet très lourd, pour ne pas dire déprimant, même si il y a de l'espoir là-dedans. Je vais commencer tout de suite, ça va être réglé. Holocauste et pensionnat autochtone, deux survivants témoignent en Saskatchewan. C'est un texte que j'ai tiré du site de Radio-Canada, ici, Saskatchewan. Et c'est signé... c'est pas signé. Ça va vraiment bien. Je suis tellement bien préparée, hein, les amis, comme toujours. Et c'est ça, c'est un texte qui date du 4 juin. Des élèves de plusieurs écoles secondaires ont assisté à une conférence donnée par un survivant de l'Holocauste et un survivant des pensionnats autochtones à la cathédrale Holy Family de Saskatoon. Nate Lepsinger, âgé de 90 ans, a survécu au camp de concentration nazi. Eugène Arcan, de la Première Nation Cree de Muskeg Lake, en Saskatchewan, a passé 11 ans dans des pensionnats autochtones. Les deux hommes ont raconté leur histoire devant environ 1000 élèves de différentes écoles secondaires de Saskatoon. Ils ont témoigné de leur sentiment commun d'avoir perdu leur identité, leur culture, leur langue et leurs liens familiaux. À travers leurs histoires personnelles, ils ont voulu sensibiliser les jeunes aux erreurs du passé, mais aussi leur montrer que, même dans les temps les plus durs, il est primordial de garder espoir. Les élèves ont été réellement touchés par les témoignages et certains ont pleuré pendant les récits. Cameron Friesen, un élève de 9e année de l'école catholique Bethléem, croit que cette activité lui a permis de comprendre qu'on est le résultat des choses que l'on vit et qu'on ne doit pas oublier les erreurs du passé. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle façon de voir. On est le résultat des choses qu'on vit, là, ça nous permet de passer au travers des choses difficiles en se disant « ben au moins, ça va me rendre plus fort ». Nate Lepsinger avait 11 ans lorsqu'il a été plongé dans les horreurs des ghettos et des camps de concentration. Durant sa déportation, il a pu rester aux côtés de son père, mais a été séparé de sa mère et sa sœur, qu'il n'a plus jamais revus. Le survivant du génocide organisé par les nazis a expliqué que son identité lui a été enlevée pour être remplacée par un simple numéro tatoué sur son bras. Il a toutefois expliqué que malgré tout ce qu'il a vécu, il n'a jamais perdu espoir. Eugène Arcan, lui, a été enlevé à sa famille et forcé d'aller dans des pensionnats autochtones. Son nom aussi a été remplacé par un numéro, le 78. Il explique que, pour lui et son peuple, il est important de raconter la vérité sur ce qui s'est produit dans les pensionnats autochtones afin que tous deviennent de meilleures personnes. C'est important de partager la vérité, pas parce qu'elle fait mal, mais parce que nous serons de meilleures personnes en le faisant. Selon Nate Lepsiger, il est important que les gens sachent ce qu'il s'est passé dans les pensionnats autochtones. Pardon. En effet, dit-il, les jeunes autochtones ont vécu des similarités avec l'Holocauste. Un génocide est un génocide et il peut avoir plusieurs formes. Ça, c'est un peu une réponse à ceux qui pourraient dire que ben oui, c'est pas aussi grave, non. Mm-hmm. Mais c'est quand même une forme de génocide qui a eu lieu ici, chez nous, faut-il le rappeler. Nate Lepsiger estime que son histoire est très semblable à celle de Jeanne Arcand. Il explique que tous les deux ont presque perdu leur communauté. Il ajoute que c'est le devoir du Canada et des États-Unis d'aider les Autochtones à regagner leur fierté, leur culture et leur langue. Pour lui, ces éléments sont ceux qui permettent de construire l'identité d'un peuple et d'un individu. Et on poursuit en science avec Émeric.
Oui, de mon côté, le texte va être beaucoup plus léger.
Ça va faire du bien.
Donc, les histoires semblent aussi incroyables que le lac est profond. Pendant des centaines d'années, les visiteurs du Loch Ness écossais ont décrit avoir vu un monstre qui, selon certains, se cache dans ses profondeurs. Un scientifique néo-zélandais dirigera le mois prochain une équipe internationale qui prélèvera des échantillons des eaux troubles du lac et effectuera des analyses génétiques pour déterminer quelles espèces y vivent. Neil Gemmell, professeur à l'université d'Otago, dit qu'il ne croit pas à Nessie, mais il va emmener les gens à l'aventure et transmettre des connaissances scientifiques en cours de route. De plus, ses enfants pensent que c'est l'une des choses les plus cool qu'il ait jamais fait.
Ça vous fait le dire.
L'une des théories les plus farfelues est que Nessie est un plésiosaure à long cou qui a survécu à l'extinction des dinosaures. Selon une autre théorie, le monstre serait en réalité un esturgeon ou un poisson-chat géant. Plusieurs croient que les observations sont des canulars ou qu'elles peuvent être expliquées par des bûches flottantes ou des vents forts. D'après M. Gemmell, les créatures qui se déplacent dans l'eau laissent derrière elles de minuscules fragments d'ADN provenant de la peau, des plumes, des écailles ou de l'urine. Son équipe prélèvera 300 échantillons d'eau à différents points du lac et à diverses profondeurs. Elle va filtrer le matériel organique et en extraire l'ADN en le séquençant avec une technologie créée à l'origine pour le projet sur le génome humain. Les résultats de l'ADN seront ensuite comparés à une base de données d'espèces connues. Monsieur Gemmell dit qu'il devrait avoir des réponses d'ici la fin de l'année. J'entre dans ce projet en pensant qu'il est peu probable qu'il y ait un monstre, mais je veux tester cette hypothèse. Ce que nous obtiendrons est une très belle étude de la biodiversité du Loch Ness. Selon lui, les vraies découvertes pourront provenir de choses comme une mesure de la prévalence des espèces envahissantes. L'homme de 51 ans a visité le Loch Ness à la fin de la vingtaine pendant ses vacances. Comme des milliers de touristes avant lui, il a regardé le lac en essayant d'y apercevoir un monstre. Il a ensuite eu l'idée de tester l'ADN du lac il y a quelques années. Et plusieurs personnes, y compris ses enfants, âgés de 7 et 10 ans, ont aimé son approche. Graham Matheson, le chef de la Société écossaise de Nouvelle-Zélande, a déclaré que lui aussi avait visité le Loch Ness et scruté la surface de l'eau, et qu'il souhaitait la meilleure des chances à M. Gemmell. J'espère que lui et ses compagnons trouveront quelque chose, même si je pense que ce ne sera pas facile, a-t-il dit. C'est quand même un bon moyen de faire un voyage en Écosse. Même si M. Gemmell et son équipe ne trouvaient pas d'ADN de monstre, cela ne découragera pas ceux qui croient à Nessie. Ils lui ont déjà proposé des théories, par exemple que Nessie puisse être en vacances, après avoir regagné la mer, dans des grottes sous-marines cachées, ou que la créature puisse être un extraterrestre et ne laisser aucun ADN. Dans notre vie, nous voulions qu'il y ait encore du mystère, que nous finirons par résoudre, a déclaré M. Gemmell. Cela fait partie de l'esprit de découverte, et parfois, ce que vous trouvez n'est peut-être pas ce que vous attendiez.
Merci beaucoup. Alors, dites-nous où vous avez trouvé le texte.
Alors, j'ai trouvé le texte sur Radio-Canada. C'est un texte daté du 23 mai 2018 et il n'est pas signé.
Merci beaucoup, Émeric. Très intéressant.
Quelque chose qui je m'intéresse à ça, le Loch Ness, depuis très longtemps. Tu sais, quand je vois quelque chose,
une émission de télé,
tout ça. Mais c'est parce qu'ils disent que le nom scientifique de la babitte, là, c'est un parent...
Un plésiosaure.
Un plésiosaure, merci. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils disent... il aurait survécu. Mais pour survivre, il faut être deux. Il faut avoir une femelle.
Ben, c'est-à-dire, oui, c'est ça, à moins d'avoir une durée de vie très longue.
Des millions d'années, tu sais.
Mais c'est ça, c'est peut-être que ce qui explique qu'on le voit aussi souvent, c'est qu'ils sont deux, en fait.
Ah. Non, mais c'est ça, on parle toujours d'un seul, tu sais. Si sont deux, on verrait deux têtes.
Peut-être une grosse famille, mais il y en a seulement un à la fois qui se manifeste.
Alors, ce sera à suivre.
On a reconnu la pièce The Man Who Sold the World, une composition de David Bowie qui est parue à l'origine sur son album du même nom, The Man Who Sold the World, qui date de 1970. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est la version de Nirvana reprise sur leur album MTV Unplugged 1993.
Il semblait que je ne reconnaissais pas.
MTV Unplugged, dont la guitare s'élève.
On va pas repartir. Oui, parce qu'on va parler, mais ça nous amène quand même à parler de M. Cobain.
Oui, mais c'est
une
parce
fois.
Que, étant donné que c'est ça, on en avait parlé il y a une couple de semaines, bien même la semaine dernière, je pense, à cause de cette histoire-là de guitare.
C'est un sujet récurrent.
Oui, sauf que là, j'ai trouvé un article dans le Rolling Stone qui parlait d'une exposition sur les choses de Kurt Cobain. Donc, je vais vous le lire. Il est très court, puis je me disais, vu qu'on est quatre, ça va bien passer. Donc, ça s'intitule Kurt Cobain, une nouvelle exposition en Irlande. Donc, si vous avez le goût d'aller faire un tour en Irlande, c'est peut-être
ben,
un bon
comme il dit, toutes les excuses. Hein, ils font du bon whisky aussi en Irlande.
Oui, apparemment.
Oui,
bon amateur, mais apparemment. Donc, Growing Up Cobain va présenter des objets personnels du leader de Nirvana qui n'ont jamais été vus auparavant. Et, il y a quelques jours, une mauvaise nouvelle frappait la mémoire de Kurt Cobain. Une exposition lui rendant hommage a été réduite en cendres à Washington.
Ah, oui. Ben voyons donc.
C'est celui-là que je voulais vous lire, mais c'est déjà plus d'actualité.
Ah oui, ben c'est déjà en cendres, alors
et
on
voilà.
peut plus en parler.
Donc, mais tout n'est pas perdu. Le musicien est un puits d'artefacts, d'objets caractéristiques et de notes. Une grande quantité d'effets personnels de Kurt Cobain vont être exposés dès le mois prochain en Irlande. C'est cet été au célèbre Museum of Style Icons que sera installée l'exposition exceptionnelle Growing Up Cobain. Ça se dit mal, ça. Bon, Growing
Mais ne le redites Cobain. Pas, puisque c'est si difficile.
Ah, je vais me pratiquer. Le musée est notamment connu pour ses nombreuses célébrations sur des personnalités culturelles allant d'Audrey Hepburn à Michael Jackson, en passant par les Beatles. Donc, on a manqué toutes ces belles expositions-là, finalement. Ouais. C'est ce qu'on nous dit. Parmi les objets exposés figureront des vieilles photos, des dessins d'enfance faits de la main du musicien. On sait qu'ils sont assez révélateurs du déroulement de sa vie, apparemment. Et aussi des vêtements, dont le fameux pull à rayures que le frontman de Nirvana portait dans le clip emblématique de Smells Like Teen Spirit.
Ah oui.
Notez que l'exposition présentera des objets qui n'ont jusqu'à aujourd'hui jamais été dévoilés au public.
Oh, vraiment,
heureusement,
il aurait
peut-être brûlé à Washington.
Eh bien oui, c'est ça. Hey. La chance.
Ah. Dans le communiqué accompagnant l'annonce de l'exposition, il est précisé que la fille de Kurt, Frances Bean Cobain, dont on a parlé.
On en a parlé. Est-ce que c'est elle qui aurait brûlé l'exposition si on ne le mentionne
ah,
pas?
Peut-être. Peut-être la guitare était dedans. Elle s'est dit, si je ne peux pas l'avoir, personne ne va. Ainsi que sa mère, Wendy O'Connor, la mère de Kurt, là, pas la mère de...
Oui.
Assistera au vernissage. J'ai toujours été la personne la plus informée grâce à ma grand-mère et à ma tante au sujet de ce qui était, était vraiment mon père, a déclaré Frances Bean à l'agence de presse Reuters. Je suis très honoré de savoir que cette nouvelle vision de Kurt va être célébrée avec les fans de Nirvana venus du monde entier. Donc, Growing Up Cobain sera ouverte au public dès le mois de septembre, ça donne le temps.
De
magasiner les billets
ben,
d'avion,
oui, c'est ça,
histoire d'embellir la rentrée de nombreux étudiants irlandais. Voilà.
Alors Serge, vous allez nous parler de la famille du cardinal Léger.
Oui.
Mais pas que de sa famille, pas sa progéniture, là.
Oh,
rassurez-nous.
Oh, Isabelle, voyons, franchement.
OK.
Oui, le cardinal Léger était sulpicien. Et c'est un article que j'ai trouvé dans la revue, la très belle revue d'histoire du Québec, Cap au Diamant.
Mm.
Tant d'histoires à raconter. Regardez la belle image, c'est beau.
Ah, ben oui.
On rêve tous d'une grand-maman comme ça.
Maintenant qu'on a dit qu'il y avait
ça,
une belle image, il faudrait la décrire.
Ouais.
Là. C'est
oui.
une espèce
ben, c'est
de dessin classique avec...
Un peu style Norman Rockwell, que j'adore. Tu sais.
Oui, c'est
Mais
vrai.
C'est la vieille grand-mère avec deux petits-enfants qui sont appuyés sur son... de chaque côté de sa tête, sur ses épaules. Et elle a... la grand-mère a un bonnet en dentelle sur la tête avec un petit ruban, un jabot de dentelle. C'est très beau.
Ça fait un peu comtesse de Ségur comme image, à part que les grand-mères étaient souvent moins gentilles dans la comtesse de Ségur.
Alors, c'est une revue qui date de l'automne 2007 et que j'ai trouvée dans mes vieilles librairies que je fréquente.
C'est ce qu'il y a de bien avec l'histoire, c'est
oui.
que souvent, ça change pas.
Ben oui. Alors, un article de Sylvie Tremblay qui, comme l'article date de 2007, elle était à l'époque, je ne sais pas si elle est toujours là, maître généalogiste agréé au Centre canadien de généalogie, Bibliothèque et Archives Canada. Alors, le 12 août 2007 avait lieu à Montréal le dévoilement d'une place commémorative de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour souligner le 350e anniversaire de la présence des Sulpiciens au Canada. Fondée par Jean-Jacques Ollier en 1641, cette communauté de prêtres établie à Paris dans la paroisse Saint-Sulpice, d'où son nom, avait comme préoccupation les missions et la formation des prêtres. Leur arrivée à Montréal est associée au fait qu'Ollier fait aussi partie de la Compagnie du Saint-Sacrement, dont certains membres, comme Gaston de Ranty et Jérôme Leroyer de la Dauversière, ont joué un grand rôle dans la fondation de la Société Notre-Dame de Montréal. En 1650, Ollier devient le directeur de cette société. Alors, de 1642 à 1657, les Jésuites assurent le ministère à Montréal. La colonie grandissant rapidement, Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance demandent à Ollier le soutien des Sulpiciens. Le 12 août 1657, les Sulpiciens, Gabriel Tubière de Lévis de Quélus, supérieur Gabriel Soir, curé, Dominique Galigny, vicaire et Antoine Dallet, diacre, arrivent à Montréal. Entre 1657 et 2007, plus de 650 Sulpiciens ont œuvré au Canada. En plus de prodiguer les services religieux à Montréal, dans des paroisses avoisinantes et auprès des Autochtones, les Sulpiciens ont été les aumôniers de plusieurs communautés religieuses féminines, ont formé plus de 6000 prêtres,
quand même,
c'est de la formation,
mine de rien,
ça, et participé activement à la vie culturelle de Montréal. 14 Sulpiciens canadiens d'adoption ou d'origine sont devenus évêques, dont 3 cardinaux, Édouard Gagnon, Marc Ouellet et le plus connu, le cardinal Paul-Émile Léger. Mm-hmm. Paul-Émile Léger est né à Valleyfield le 26 avril 1904. Il est le fils d'Ernest Léger et d'Alda Beauvais et frère de Jules, qui a été gouverneur général du Canada de 1974 à 1979.
Ah, je savais pas ça.
Après des études classiques au séminaire de Sainte-Thérèse et des études théologiques au Grand Séminaire de Montréal, il est ordonné prêtre le 25 mars 1929. De 1933 à 1939, il est supérieur fondateur du séminaire de Fukuoka au Japon. Ça, je l'ignorais. Mm. Il avait été au Japon durant 6 ans.
Ben oui, quand même, ouais. Une longue période.
Il revient au Canada en 1940, probablement à cause de la Deuxième Guerre mondiale, j'imagine.
Où il est vicaire. Les relations devaient être un peu plus froides.
Oui, oui, oui.
Ça, c'était pas très chaleureux avec le Japon.
C'est-à-dire que le Japon, c'est en...
Ouais,
l'attaque sur Pearl Harbor, c'est 41. Oui, c'est probablement que ça devait s'en venir.
Ça commence à chaud.
Oui, il revient au Canada en 1940, où il est vicaire général du diocèse et curé de la cathédrale de Valleyfield jusqu'en 1947. Il devient recteur du Collège pontifical canadien à Rome et assume la direction pendant 3 ans de cet organisme de 1947 à 1950. Le pape Pie XII le choisit comme archevêque de Montréal le 25 mars 1950 et l'ordonne évêque le 26 avril suivant. 2 ans plus tard, il est nommé cardinal. Et là, petit aparté, là, quand il est revenu à Montréal, on avait affrété un train spécial. Et quand il est arrivé à Montréal, il avait déclaré au micro, toutes les radios avaient diffusé ça, « Montréal, ma ville, tu t'es faite belle pour accueillir ton prince.
» Oui, je me souviens d'avoir vu ça. Pas à l'époque,
souvent,
là,
mais souvent, ils ressortent ça dans les archives. Ouais, là, Ah oui, il était très...
narcissique.
Oui, mais il était très aristocratique, le cardinal Léger. Ouais. Le 9 novembre 1967, le cardinal Paul-Émile Léger annonce sa décision de quitter son poste d'archevêque de Montréal pour aller en mission en Afrique. Il séjourne à Yaoundé pendant 7 ans. À l'âge de 70 ans, il revient à Montréal et poursuit sa visée missionnaire. Pendant 12 ans, il se consacre à développer des cliniques, hôpitaux, écoles et orphelinats dans plusieurs pays d'Afrique. Il meurt le 13 novembre 1991 à l'âge de 87 ans. Aujourd'hui, son œuvre se poursuit grâce à la fondation Jules et Paul-Émile Léger, son frère. Et voilà.
Merci beaucoup, Serge. Daniel.
Ouais, je ne sais pas si vous aviez envie d'aller entendre Charles Aznavour au courant de l'été, vous ne pourrez pas.
Non.
J'ai vu ça ce matin dans le petit journal, je pense que c'est le 24 heures. Coup dur pour les amateurs de grande musique qui espéraient voir Charles Aznavour en concert cet été. Son service de presse vient de publier un communiqué expliquant qu'il allait devoir une fois encore annuler des concerts. Mm. Depuis son accident qui lui a causé une double fracture de l'humérus, Charles Aznavour est en bonne voie de guérison. Cependant, les médecins ont estimé que la rééducation sera plus longue que prévu et durera jusqu'à fin août, a-t-il été annoncé. Un concert était prévu au Royal Albert Hall, prestigieuse salle londonienne, mais il est finalement annulé. Ce n'est qu'en septembre qu'il pourra reprendre la scène. C'est beau d'être optimiste comme ça quand même, parce que le monsieur a quand même, je pense, 91 ans.
Oui, puis à cet âge-là, c'est...
94,
voilà, c'est j'ai manqué 3
de,
ans.
C'est long de remettre une blessure.
Ouais, 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 sauf que...
Et à chaque fois qu'il annonce une tournée, on se dit toujours, mais est-ce que ça va être la dernière ou est-ce qu'elle va se rendre? Ouais, alors, on attend la suite.
Ouais, bonne chance.
Serge, vous avez quelques citations pour nous.
Et surtout des citations, c'est pas
encore
moi qui
quelque
les
chose de
inventé,
sexiste
là.
Ou
Je vous jugerai. Saint-Exupéry. Ah. Pourquoi perdre son temps à vouloir contredire son épouse? Il suffit d'attendre qu'elle ait changé d'avis.
Oh, c'est vraiment c'est tellement d'une autre époque, c'est
fascinant.
Mais
c'est un bon conseil.
C'est vraiment fascinant.
Oui. Salacrou, que je connais pas du tout, là. Monsieur Salacrou.
Comment ça s'écrit?
S-A-L-A-C-R-O-U. Salacrou, ouais. Alors, les curés doivent être sacrément contents de ne pas être mariés quand ils entendent les femmes se confesser. Une plus sérieuse, Jean-Paul Sartre. Vraiment, celle-là, je trouve qu'elle a... c'est profond. Et, il suffit qu'un seul homme en haïsse un autre pour que la haine gagne l'humanité tout entière.
Ah, c'est communicatif. Ah.
Pensez là, à Adolf Hitler, qui haïssait juif pour s'en confesser. Pas pour s'en confesser. Il a commencé par haïr un juif, là, lui, j'imagine, quelqu'un qui avait fait quelque chose qui était juif, mais ça revirait en...
Ouais, on a d'autres exemples aujourd'hui qui sont menaçants.
Paul Verlaine. Il ne faut jamais juger les gens sur leur fréquentation. Bon, hein?
ça commence...
Judas, par exemple, avait des amis irréprochables.
C'est vrai.
Voltaire. Les femmes sont comme les girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent.
Pas de commentaire.
Ça veut dire quand elles sont rendues trouvées pour trouver quelqu'un d'autre, c'est ça?
Quand la valeur baisse.
Oscar Wilde. Celle-là aussi, j'avoue, je l'aime. Le seul moyen de se délivrer de la tentation, c'est d'y céder.
Ah, ça, c'est vraiment beau.
Oui.
Et je pense que ça va devenir mon motto. Oui. Avant, c'était... Non, pas rien ne sert de courir, plutôt. Mieux vaut tard que jamais. Ben, je pense que ça va rester quand même. Alors, c'est déjà la fin de cette première partie de l'émission Les Voix de service. On vous revient après une courte pause. Merci beaucoup.
Alors, on vient d'entendre un extrait de l'album Shoka, chant japonais pour enfants. C'est une composition de Jean-Pascal Bintu et c'est dirigé par Kent Nagano. On vient d'entendre l'Orchestre symphonique de Montréal. Le titre de la pièce, Natsuwa Kinu, ou en anglais Summer Has Come, ou encore en français L'été est arrivé.
Ah ben, bon. Ça va aller pour demain, mais il est déjà arrivé en température, demain, en tout cas. C'est-tu demain ou aujourd'hui, en fait?
Ou c'est peut-être chacun... même jeudi.
C'est demain. Nous sommes mercredi, c'est demain. C'est jeudi, si ma mémoire est bonne, entre 10h et 11h en avant-midi.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Okay, alors, l'été est arrivé, presque.
Voilà.
Et vous allez donc nous parler de Kent Nagano.
Oui, quel hasard.
Quel hasard.
Un article qui a attiré mon attention, qui est paru dans La Presse Plus, l'édition du 17 juin, donc ça fait 3 jours, dans les derniers jours du printemps, là.
Mais oui.
Et qui a pour titre « Pour en finir avec l'élitisme en musique ». Et c'est ça qui a attiré mon attention.
Ben oui.
Il existe, et c'est ça, c'est écrit par Kent Nagano. Il existe en ce moment un mouvement qui, au-delà de sa dimension artistique, prend une certaine résonance politique. Le mouvement est né du besoin profond d'intégrer des considérations sociales de notre quête d'une solution plus efficace et durable pour combler le fossé séparant artificiellement les musiciens professionnels et le grand public. Le remède recherché doit être bien plus qu'une simple panacée. Ce fossé provoque un étrange sentiment de marginalité chez les personnes talentueuses et les connaisseurs, et il introduit la notion d'élitisme, un système qui n'a rien à voir avec l'essence même de la musique. Dans notre recherche de solutions contemporaines aux problèmes, je suggère que nous puisions notre inspiration dans des modèles anthropologiques historiques qui ont fait leurs preuves. Les modèles historiques proposés ici rétrécissent l'écart entre les professionnels de la musique et les amateurs au point qu'il en devient presque négligeable. Petite parenthèse ici, de la façon dont j'ai compris ça, il parle d'élitisme en musique, mais je pense surtout en musique classique.
En musique,
parce que
oui,
les exemples
c'est ça.
Qu'il donne ici, on voit.
Oui, ben c'est son domaine aussi, donc c'est pop, un peu ce à quoi on s'attend. Non, c'est ça.
Donc, premier moyen, mise sur pied d'un orchestre communautaire formé de professionnels et d'amateurs. En vogue surtout à partir du 18e et du 19e siècle jusqu'au 20e, ce type d'ensemble poursuit aujourd'hui ses activités dans de nombreuses villes, bien qu'à une moins grande échelle. Pour ma part, j'ai contribué à la fondation de quelques-uns. Par exemple, à Berlin, le Deutsche Symphonie Orchester Abandonen Orchester, quelque chose
Je ne reconnais pas votre accent. Est-ce que c'est la région de Munich?
J'ai aucune idée. Je ne suis pas sûr que
la Bavière.
Ça ressemble à un accent.
Vous pourriez répéter, Daniel? Non, ça, j'ai compris.
Non.
Et à Munich, la Attaka Orchester.
Ah, donc c'était pas la Bavière.
Non, c'est pas l'autre. Et les orchestres sont devenus immensément populaires. C'est par eux que se forme le noyau de nos futurs auditoires, car ils conservent à la musique son caractère d'authenticité et son rôle actif dans la communauté, parallèlement aux manifestations professionnelles. Donc ça, c'est vrai.
Oui, effectivement, ben oui.
Deuxième moyen, organisation de concerts grand public offerts par un orchestre de professionnels et d'amateurs. Ces concerts, répandus au 19e et 20e siècle, donnaient lieu à des marathons d'interprétation musicale qui occupaient de longs week-ends. À titre d'exemple récent, citons le festival Beethoven 32, présenté tout près de Montréal par des pianistes de niveaux différents, tant professionnels qu'amateurs. Il s'agissait pour eux de jouer en une seule journée les 32 sonates du compositeur. Dans le cadre de la virée classique de l'OSM, nous invitons plusieurs chorales amateurs du Québec à prendre part à l'événement de clôture du dimanche. La scène de la Maison symphonique est donc fréquentée par un grand nombre de Québécois de tous horizons qui font de la musique ensemble aux côtés de musiciens professionnels. Et un autre moyen, organisation de concours professionnels amateurs. Dans l'Antiquité grecque, les premiers Jeux olympiques consistaient en un concours où professionnels et amateurs rivalisaient aussi bien dans des disciplines sportives que dans des épreuves de chant solo et de chant choral.
Ah oui, ça, je ne savais pas ça, qu'il y avait des épreuves artistiques.
J'entends parler de ça.
Ah ben!
Auxquelles participaient des instrumentistes. Ces jeux mettaient également à l'honneur danse, poésie, théâtre et littérature. Ça a bien changé, hein?
Ben, il y a la cérémonie d'ouverture et de clôture où il y a de la musique puis de la danse, mais après, c'est vrai que pendant les jeux... Non, c'est pas trop.
Ça fait pas partie des compétitions.
Les compétitions, clairement pas. Non, c'est ça, ça a disparu. C'est dommage un peu.
Toute discipline associée aux humanités. En réunissant les arts et le sport, les Jeux olympiques ont joué un rôle unificateur dans la société. Ce n'est que plus tard que le sport en est venu à occuper tout l'espace. Donc, c'est pas juste les humoristes qui occupent l'espace. Le sport aussi, finalement. Si les Grecs anciens ont rapproché sport et musique, pourquoi ne pas les imiter aujourd'hui? Par exemple, je m'emploie actuellement à mettre sur pied un concours entre plusieurs équipes sportives amateurs dont les membres apprennent à chanter des chœurs populaires de Verdi et doivent s'affronter en musique avant de s'engager dans leur saison sportive. Ça, j'aimerais bien
vraiment,
voir ça.
Vraiment?
Ouais, j'ai lu ça, j'ai dit, est-ce qu'il est sérieux, là? Ou...
Je pense à des joueurs de la ligne défensive de football là, qui sont en train de chanter l'opéra. Ça pourrait être...
une technique d'intimidation pour l'équipe adverse.
C'est l'initiation, en fait.
En tout cas, j'espère que ça va se faire un jour. J'aimerais beaucoup voir ça.
Wow.
De nos jours, la musique nous est rendue à l'occasion de concerts d'un très haut niveau professionnel, mais en soi, elle représente bien plus qu'une simple prestation de qualité. En effet, elle constitue une manière d'apprendre. On peut apprendre le piano ou le chant, ce n'est pas seulement une question de talent naturel. Une manière de socialiser, de partager et de collaborer avec les autres, en plus de favoriser l'expérience collective dans le meilleur sens du terme. Les idéaux politiques et humanitaires que véhiculent les chœurs de Fidelio de Beethoven ou de nombreux chœurs de Verdi expriment les valeurs fondamentales du genre humain. Chantées par un ensemble, ces valeurs sont magnifiées. Si l'on faisait revivre les trois modèles mentionnés ci-dessus, ce sont toutes les couches de la société québécoise qui seraient emportées dans le grand mouvement de la musique comme activité partagée. Leur implantation permettrait aussi de maintenir vivante et bien affirmée l'identité culturelle du Québec. Donc, ce texte provenait de la Presse Plus, et c'était l'édition du 17 juin, si vous voulez lire.
Merci beaucoup, Daniel. Alors, un nouvel institut d'études autochtones en Ontario. C'est un texte de Peter Goffin que j'ai pris, en fait, c'est Peter Goffin et la Presse canadienne, et j'ai pris ça dans le journal Métro du 4 juin dernier. Un nouvel institut de recherche en Ontario espère donner aux chercheurs autochtones l'occasion d'apporter une contribution plus large aux questions de politique publique qui intéressent les premiers peuples. Hayden King, écrivain et universitaire Anishinaabe de la Première Nation de Beausoleil dans la baie Georgienne, dirigera ce nouvel institut Yellowhead de l'Université Ryerson à Toronto. L'institut porte le nom de William Yellowhead, un chef Anishinaabe du début du 19e siècle qui a promu l'unité parmi les nations autochtones et résisté aux sévères politiques coloniales décidées dans le sud de l'Ontario. L'Institut Yellowhead lancera mardi ou plutôt à lancer mardi qui suivait le 4 juin, puisque l'article date du 4 juin, un document de recherche qui analyse les politiques du gouvernement de Justin Trudeau en matière autochtone. Le document, coécrit notamment par le professeur King, a impliqué le travail d'une trentaine de leaders autochtones, de militants, de membres des communautés et d'experts en politique publique, pour la plupart autochtones. Nous espérons renverser une très longue histoire d'exclusion des peuples autochtones, des décisions politiques et des décisions juridiques qui affectent nos communautés, a déclaré M. King. Les Autochtones devraient prendre eux-mêmes les décisions concernant leur avenir. Nous espérons que l'Institut Yellowhead, deviendra une source pour les médias pour faire porter la voix des communautés autochtones et des experts politiques et juridiques autochtones. Depuis le mouvement Idle No More pour les droits et la souveraineté des Autochtones jusqu'aux demandes répétées au gouvernement fédéral pour se pencher enfin sur le nombre disproportionné de femmes autochtones disparues et assassinées au Canada, les leaders et les militants autochtones sont devenus plus insistants et affirmatifs dans leurs appels à l'action, croit le professeur King. Néanmoins, la voix des chercheurs allochtones est plus répandue et mieux acceptée dans les médias et dans les travaux de recherche, selon lui. Les experts non autochtones disent souvent des choses qui plaisent aux Canadiens, aux institutions canadiennes et au gouvernement, et ils ne sont ni offensants ni menaçant. Serge,
Oui!
Donc là, vous allez nous parler de la Saint-Jean-Baptiste.
Saint-Jean-Baptiste. Puis mon Dieu, j'en
Est-ce
profite.
Qu'il y a encore des choses qu'on peut apprendre là-dessus?
Oui, ben peut-être.
C'est ce qu'on va voir.
Oui. Mais moi, j'avais une question à poser à Imbrick, à notre invité, notre stagiaire. C'est que comme, pas tout le monde l'a entendu avec le bel accent qu'il a.
Oui, on se doute qu'il est né ailleurs qu'ici. Oui,
mais la Saint-Jean, parce que j'ai fait une recherche sur Internet un petit peu hier, mais j'ai pas vu que la Saint-Jean se fêtait ailleurs dans le monde. Il n'y a pas en France les bûchers de la Saint-Jean?
Alors, il y a certaines villes qui fêtent la Saint-Jean.
Ah bon, OK.
Fontainebleau, par exemple, à l'Est de Paris.
Ah, bon.
Donc, c'est vraiment, ça dépend des villes, en fait.
Des villes,
ouais,
OK.
Ouais, ça dépend
Donc, c'est pas une organisation nationale ou...
Non, c'est plutôt les communes qui sont réputées comme royalistes qui fêtent la Saint-Jean.
Ah, c'est revient à la monarchie. Ah, c'est vraiment intéressant.
Ah, ça, je savais pas. Ah, bon,
alors,
mon Dieu, c'est
vous pourrez...
Ben oui.
Mais un autre sujet dont vous pourrez nous parler.
Les feux de la Saint-Jean, c'est... Vous avez, c'est un feu.
Quand c'est
on faisait, on faisait un genre de bûcher, là, on faisait un grand feu populaire pour la Saint-Jean.
Ça
mais c'est
juste des pyromanes.
Ouais. Ça commence comme ça. Donc, fête nationale du Québec, fête de la Saint-Jean. Célébrée le 24... C'est un article de Myriam Fontaine et Maud Emmanuel Lambert qui a été publié en 2009, mais on l'a remis à jour en 2016.
Ah, merci.
Alors, célébrée le 24 juin de chaque année, la fête nationale du Québec, anciennement appelée la Saint-Jean-Baptiste, est un jour férié au Québec depuis 1925.
Ah, ben ça fait quand même...
Ouais. En Amérique du Nord, la Saint-Jean-Baptiste est célébrée, cependant, depuis les débuts de la Nouvelle-France. À l'origine, une fête de dévotion, elle prend une tangente patriotique à partir de 1834.
Oui, parce qu'il faut dire que les fêtes, les saints quelque chose, là, ils devaient en avoir... certaine époque, d'ailleurs, c'était la seule façon d'avoir congé,
à part
le dimanche. Mm-hmm.
Alors, c'est à partir de 1834 avec Ludger Duvernay.
Ah oui.
Oui, le premier défilé de Saint-Jean-Baptiste a lieu à Montréal en 1843, quand même.
Donc, pendant la guerre, c'est peut-être justement une...
1800. Pas 1900.
Ah, c'est parce qu'il y avait eu une guerre là aussi.
Non, excusez-moi, j'étais...
1843.
Donc, je n'ai rien dit.
Oui, et ben ça suivait évidemment la période des Patriotes en 1837-39. Depuis 1984, les célébrations de la Fête nationale du Québec sont organisées par le Mouvement national des Québécois et des Québécoises, le MNQ. On célèbre aussi la Saint-Jean-Baptiste dans les différentes communautés francophones du Canada. Alors, la fête de la Saint-Jean-Baptiste tire ses origines des célébrations du solstice d'été. Une très ancienne coutume païenne voulant que des feux soient allumés pour célébrer la lumière à l'occasion de la plus longue journée de l'année.
Alors voilà, vous avez l'explication pour les feux.
Mais je me demandais si on en faisait encore beaucoup en France.
Je me doutais qu'il y avait une raison
France,
païenne derrière ça.
Dans le fond, c'est ça.
Ça.
On a deux fêtes. On a la fête de Noël, qui est le solstice d'hiver.
Oui, exactement. Ouais.
Puis on a trouvé son pendant solstice d'été avec la Saint-Jean. Mm-hmm. Dans le fond, la fête religieuse, c'est juste un prétexte pour fêter ces deux
événements. Ben oui, voilà.
Et en France, l'Église catholique a récupéré cette fête.
Voilà.
Et y associe la figure de Jean-Baptiste, cousin de Jésus. C'était une bonne fréquentation, ça. C'était pas une mauvaise fréquentation.
C'était sur lequel on pouvait le juger.
Ouais. La tradition d'allumer le feu de la Saint-Jean pour marquer le début de l'été est transposée en Nouvelle-France dès 1646. En 1694, Monseigneur de Saint-Vallier en fait une fête chômée vouée à la dévotion. La Saint-Jean continue d'être célébrée après la conquête, mais ce n'est qu'en 1834 qu'elle prend une couleur politique qu'elle conserva jusqu'à nos jours. Le 8 mars 1834, Léger Duvernay, l'éditeur du journal La Minerve, une importante publication du Bas-Canada et voix du Parti patriote, fonde la société Aide-toi et le ciel t'aidera. Ah.
C'est intéressant comme nom de société.
Ben oui, c'est on associe le ciel. En compagnie, ils font ça en compagnie de Georges-Étienne Cartier, alors étudiant en droit, et de Louis-Victor Sicotte.
Ça me dit quelque chose, ce Georges-Étienne Cartier. Oui, il a pas sa face sur un billet de quelque chose?
Ben oui, c'est un des pères fondateurs. Cette société, dont le nom rappelle une organisation secrète et révolutionnaire, fondée en France en 1827, annonce celle des Fils de la Liberté et est en quelque sorte l'ancêtre de la Société Saint-Jean-Baptiste. L'organisation se donne pour objectif de doter les Canadiens français d'une fête nationale et d'en organiser les célébrations, comme le font les Irlandais de Montréal depuis 1824, avec le défilé de la
Saint-Patrick.
Oui. Le 24 juin 1834, Duvernay convie certains notables de Montréal à un premier banquet de la Société Saint-Jean-Baptiste chez l'avocat John McDonnell. Lors de cette soirée, qui est avant tout une fête politique, réunissant une soixantaine de francophones et d'anglophones, dont le député Louis-Hippolyte Lafontaine, le futur avocat et premier ministre du Canada uni, Georges-Étienne Cartier, le maire de Montréal, Jacques Vigée, et le docteur Edmund O'Callaghan, les convives lèvent leur verre aux 92 résolutions. Les 92 résolutions, c'était des demandes faites par les organisations, par les députés, auprès du gouvernement, auprès du gouverneur général, qui dirigeait à ce moment-là...
Pour faire valoir les droits du Québec, du Bas-Canada ou du...
Du Bas et du Haut-Canada, oui. On lève le verre, donc, aux 92 résolutions. On lève nos verres aux États-Unis aussi, aux réformistes du Bas et du Haut-Canada.
La belle époque où on avait envie de lever son verre aux États-Unis.
Et à ceux d'Irlande. Dans le compte-rendu de ce banquet, plusieurs journalistes incitent la population à fêter publiquement la Saint-Jean-Baptiste l'année suivante, ce qui fut vraisemblablement le cas dans nombre de villages. Toutefois, les événements des rébellions de 1837-38, forcent Duvernay plusieurs patriotes à l'exil. De retour au Canada en 1842, Duvernay s'empresse de faire revivre les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, soulignant que les Canadiens français doivent plus que jamais rester unis. Et c'est ainsi que le 9 juin 1843, l'Association Saint-Jean-Baptiste de Montréal est créée à l'initiative de Ludger Duvernay, et que le 24 juin suivant, Montréal tient son premier défilé de la Saint-Jean-Baptiste, une tradition qui se perpétue. J'imagine qu'il va y avoir le petit Saint-Jean là, de cette époque-là, avec le petit mouton.
Avec le petit mouton frisé, le petit blond.
Alors, à leur début, les célébrations de la Saint-Jean comprennent un banquet, une messe, évidemment, la distribution de pain béni et un défilé. La procession rassemble les membres des sociétés Saint-Jean-Baptiste, auxquelles s'ajoutent, avec le temps, ceux de divers organismes culturels, comme l'Institut canadien, les ordres professionnels, membres du Barreau du Québec, médecins, etc., et des corps de métier, de même que des étudiants. Pour l'occasion, les magasins et les maisons arborent les symboles des sociétés Saint-Jean-Baptiste, la feuille d'érable et le castor. La chanson patriotique « Au Canada, mon pays, mes amours », composé par Georges-Étienne Cartier et interprété pour la première fois lors du deuxième banquet de la Saint-Jean-Baptiste en 1835, de même que la populaire « Vive la Canadienne ».
Ça me dit rien,
vive
mais l'autre
la Canadienne,
Oui. Merci.
Bon, c'est tout ce que je vais vous chanter, je ne serai pas plus loin. Font pendant longtemps office d'hymnes nationaux. Par ailleurs, c'est lors des célébrations de la Saint-Jean à Québec en 1880 qu'est entonné pour la première fois le Haut-Canada, qui deviendra officiellement l'hymne national du pays en 1980. C'est ça, le Haut-Canada, en premier, était une chanson patriotique
québécoise, canadienne, française. Oui. Quand les Québécois s'appelaient des Canadiens français. Ça, c'est comme la poutine. Hein. Ils nous ont volé le Canada, puis là, ils nous volent la poutine. Je ne sais pas c'est quoi qui va être...
Mais tant que la poutine, peuvent bien garder pour moi, parce que je vous sais pas. J'en ai mangé une fois, là, puis Seigneur, c'est lourd. Étant donné l'omniprésence de l'Église catholique dans la société canadienne française, l'association de la fête avec Saint-Jean-Baptiste est marquée dès ses premières éditions. Celui-ci est personnifié par un enfant à chevelure frisée,
tenant un mouton.
Y a-t-il un animal qui est plus soumis que le mouton?
Ben oui, c'est ça. Mais c'est-tu parce que c'était un berger ou c'est pour représenter justement le fait que...
Ben les deux, Saint-Jean-Baptiste est un berger. Ben,
ça a une connotation religieuse.
Tout ça était... Ouais. Celui tendant un mouton et prenant place dans le dernier char allégorique du défilé. Toutefois, ce n'est qu'en 1908 que Saint-Jean-Baptiste devient officiellement le patron des Canadiens français. Les figures de Jacques Cartier, d'un Français et d'un Autochtone, également incarnés par des enfants, sont aussi mises de l'avant lors de nombreux défilés au 19e siècle. Au fil du temps, des personnages de la Nouvelle-France et des Canadiens illustres s'ajoutent au tableau. Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, etc. Chaque année, des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste sont organisées un peu partout dans la province. Toutefois, c'est à Québec et à Montréal qu'ont lieu les plus importantes. Officiellement reconnue par l'Assemblée législative du Québec en 1925, cette fête devient dès lors un jour férié. En 1947, les sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec forment une fédération qui s'empresse de mener une campagne en faveur de l'adoption du fleur-de-lys comme drapeau pour la province. Et c'est en 48 que le drapeau va devenir officiel. C'est Maurice Duplessis qui avait fait voter cette loi-là. Durant les années 60-70, Ah, année turbulente pour le Québec, la fête de la Saint-Jean s'éloigne de son caractère religieux et adopte une mission plus culturelle, artistique et rassembleuse. On va se rappeler de la fameuse Saint-Jean de 68. Là,
Avec Trudeau.
J'étais là, moi, avec ma soeur et de ses amis, au parc. C'était près de chez nous. On demeurait pas loin du parc La Fontaine.
Moi, je me rappelle de celle, de, est-ce que c'est 90, après le lac Meech aussi, c'était spectaculaire.
Ah, ouais.
Vraiment. C'était sur le. Je pense qu'il y avait bloqué René Lévesque qui s'appelait Dorchester à l'époque. Ouais. Puis il y avait des. Plus de 100 000 personnes.
Ouais.
101 000, probablement. C'est toujours ça qu'on dit.
En juin 1972, la Fédération des sociétés Saint-Jean-Baptiste du Québec devient le Mouvement national des Québécois et la fête, vue comme un grand moment de ralliement national, sert alors de plateforme aux artistes et aux politiciens. Les chefs politiques se mêlent à la parade, causant parfois des remous dans la foule, et les souverainistes en profitent pour faire valoir leur cause. En 1975, Gilles Vigneault y interprète pour la première fois sa chanson...
Jean du pays.
Eh oui. Ah, oui. Un hymne aux Québécois qui prend dès lors une place centrale dans la fête et dans la culture québécoise.
Il a fini par remplacer le « Bonne fête
». Oui, absolument. Oui, oui, oui. Le 24 juin 1977, le gouvernement de René Lévesque, élu en 1976, fait de la Saint-Jean la fête nationale du Québec, l'éloignant pour de bon de son aspect religieux. Dans les années 80-90, les célébrations prennent d'ailleurs une tangente très politisée dans la foulée du premier et du deuxième référendum sur la souveraineté du Québec. Au fil du temps, la fête nationale accueille les diverses communautés qui composent la société québécoise et s'ouvre à leur rapport culturel et artistique. Et voilà.
Merci beaucoup.
Et vous savez qui est né un 24 juin et qui va avoir 84 ans dimanche?
Non.
Jean-Pierre Ferland.
Oh, oui.
Il est né le 24 juin 1934.
Voyons donc, un petit Saint-Jean-Baptiste.
Oui, ouais, Saint-Jean-Baptiste. Donc, il va avoir 84 ans dimanche.
Mm-hmm. Eh bien, ben, joyeux anniversaire, M. Ferland.
J'ai essayé de cacher ça, là. C'est trop tard.
Le temps que l'on prend pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court,
gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler
Le temps de s'aimer, le jour de le dire, fond comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ces yeux où nos regards se mirent. C'est demain que j'avais 20 ans.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser
Le ruisseau des jours aujourd'hui s'arrête et forme un étang. Chacun peut voir comme en un miroir l'amour qu'il reflète pour ces cœurs à qui je souhaite le temps de vivre leurs espoirs.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
Question piège, titre de la chanson et interprète, mesdames, messieurs?
Oh, aucune idée.
Jean-Pierre Ferland et la Canadienne.
Kurt Cobain et...
Gilles Vigneault qui chantait Jean du pays. Et moi, j'habite à Hochelaga-Maisonneuve. Il y a, sur un immeuble, il y a une murale, une de ces grandes murales qui représente... donc, celle-là, elle représente Gilles Vigneault. Et je pense que tout Québécois de mon âge, de notre âge ici, là, on reconnaît le visage de Gilles Vigneault. Mais j'étais avec mon fils et j'ai dit, tu reconnais... cette personne, il me dit non, je ne sais pas c'est qui. Ben, j'ai dit, c'est Gilles Vigneault. Il me dit qui? Et là, je me suis sentie vraiment que j'avais J'avais failli à mon rôle de mère indigne. Oui, alors là, je lui ai dit, mais c'est Gilles Vigneault, c'est un des plus grands chansonniers, poète.
Je pensais que c'était un astronaute.
Auteur, compositeur, interprète du Québec. Mais, il dit, mais encore. Et là, ben, c'est là que je lui ai fredonné mon cher Philémon, c'est à ton tour de te laisser. Il a dit, et voilà. Alors là, maintenant, en arrivant à la maison, je vais lui faire entendre la chanson intégrale Gens du pays. Et sur ces belles paroles de Gilles Vigneault, nous mettons fin à l'émission de cette semaine. Merci beaucoup à Émeric Herman, qui nous a rendu visite aujourd'hui. Merci Serge Bradet, Daniel Lachance. Merci Jean-Sébastien à la liberté, à la mise en onde et aux choix musicaux. Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous dis bonne journée et à la semaine prochaine.